Europe 1, 22h30, 1h, la Libre Antenne. Olivier Delacroix.
Je vous imagine bien installé confortablement dans la pénombre, allongé ou assis dans un fauteuil à écouter votre Libre Antenne. Et vous faites bien, chers amis, car ce soir, comme tous les soirs, nous partageons et nous voyageons à travers les mots de ceux qui ont décidé de nous appeler. Je vous incite encore à appeler le 3921 pour laisser votre message sur notre répondeur. Et puis, bien sûr, Natacha et Florian vous rappelleront dans les jours qui viennent. Nous accueillons maintenant Maya sur Europe 1. Bonsoir Maya.
Bonsoir, c'est Naya.
Ah oui, c'est Naya.
Oui.
D'accord. Naya, c'est la première fois que j'entends ce prénom, Naya.
Joli prénom, n'est-ce pas ?
Oui, c'est très joli, très joli. Alors Naya, dites-moi... Quel âge avez-vous, Naya, d'ailleurs ? Parce que cette jolie voix... 35 ans. D'accord. Oui. Dites-moi ce qui vous amène, Naya.
Alors, ce qui m'amène, ce que je souhaitais partager avec vous et avec vos auditeurs, c'était une histoire autour du pardon lié à l'infidélité.
Oui.
Un pardon sincère et durable.
D'accord. Sujet vaste et très intéressant. C'est la première fois, c'est la première fois, d'ailleurs, que nous allons parler de ce type de pardon, vraiment. Parce que jusqu'à maintenant, nous avons eu des auditrices qui nous appelaient et nous faisaient part de leur difficulté à vivre l'infidélité, du questionnement autour de l'infidélité. Mais vous êtes la première, en tout cas depuis que j'occupe cette Libre Antenne. Sûrement, dans le passé, Sophie ou Caroline ont eu l'occasion de l'aborder avec vous. Mais vous, Naya, vous êtes la première... auditrice avec qui je vais échanger à propos de ça. Alors, racontez-moi.
Alors, donc je suis avec mon époux depuis notre 10e année. Et 7 mois après notre rencontre, j'ai appris qu'il m'avait trompée. Déjà, la découverte. J'ai juste une intuition, une très forte intuition que quelque chose se passait entre nous, sans en avoir d'explication particulière. J'ai senti en mon fort intérieur qu'il y avait quelque chose. J'ai dû être patiente, attendre qu'il aille dormir. Et j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire. J'ai fouillé dans son téléphone qui était à ma portée. Et là, j'ai surpris des conversations qu'il avait avec une jeune femme où il se disait beaucoup de choses, des mots d'amour, des choses qu'il me disait à moi. Il l'appelait par un petit nom qu'il me donnait à moi, il lui disait qu'il l'aimait, etc. Et donc voilà, ça c'était la découverte. C'était le 13 février, donc la veille de la Saint-Valentin, date hautement symbolique.
Oui.
Et donc j'ai dû déjà accuser le choc de lire tout ça.
Vous avez évoqué des jeunes filles ou une jeune fille ?
Une,
d'accord.
Beaucoup de messages envoyés à une jeune femme.
D'accord. Que vous connaissiez ?
Pas du tout.
Pas du tout, d'accord.
Que je ne connaissais pas du tout. Donc ensuite, à travers son nom, j'ai été regardée sur un célèbre réseau social.
Oui.
Pour aussi voir son image. Hein. C'est peut-être un petit peu bête, mais donc voilà.
Non, c'était important pour vous, ça, de voir... son image, il fallait que vous mettiez un visage hein, sur...
C'était important, effectivement. Et elle me ressemblait d'une certaine manière, ce qui, d'un point de vue narcissique, peut être rassurant aussi.
D'accord.
Et donc, c'était le soir, il était assez tard, j'ai trouvé le numéro de téléphone de la jeune femme et je l'ai appelée pour me présenter à elle. De manière très calme, il n'y avait pas de docilité de ma part,
oui.
Mais elle n'a pas souhaité être en conversation avec moi, donc elle a raccroché.
Mm-hmm.
J'ai dû passer à côté de mon cher et tendre, sans laisser paraître ma colère, ma déception et tous les sentiments négatifs qui allaient avec la découverte. Le lendemain matin, nous sommes croisés au réveil comme tous les matins. On avait nos petits rituels. On a fait le chemin ensemble pour aller au travail. On ne travaillait pas au même endroit, mais on faisait un bout de la route ensemble. Et ce n'est qu'arrivé au travail que j'ai commencé à penser un plan d'extraction, je dirais ça comme ça, qui consistait à rentrer à la maison en milieu de matinée, ramasser quelques affaires et partir sans dire un mot. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai emballé rapidement quelque chose. J'ai appelé ma petite sœur et mon petit frère avec qui il était en contact, donc il avait le numéro de téléphone, et je leur ai demandé de ne pas répondre à ces appels.
Oui.
Et que, sans leur donner plus de détails sur les circonstances qui me poussaient à leur faire une telle demande, mais juste, voilà, s'il appelait, ne juste pas lui répondre. La jeune femme lui a téléphoné dans la matinée pour lui dire qu'elle avait eu au téléphone sa femme.
Oui.
Et donc, lui a peut-être attendu de ma part un signe, mais bon, je n'ai rien dit, j'ai gardé silence. Et en fin de journée, il m'a appelé, je ne sais combien de fois, pour savoir où je me trouvais. Je n'ai pas répondu le jour même. Il a contacté ma famille, mes parents, disant qu'ils s'inquiétaient. J'ai rassuré chacun en leur demandant juste de ne pas interférer dans cette affaire, mais que pour le moment, je ne souhaitais juste pas lui parler. J'ai été chez une amie. Et donc, nous avons mis à peu près 3 jours avant de nous reparler. Donc je lui ai dit que je ne souhaitais pas lui parler tout de suite parce qu'en fait, on aurait tourné autour du moyen par lequel j'ai eu l'information et pas de l'information en elle-même.
Oui,
oui effectivement, j'ai fouillé dans son téléphone qui est privé et je n'aurais pas dû. Mais le fond du problème, ce n'est pas que j'ai fouillé dans le téléphone, c'est ce que j'ai découvert dans le téléphone. Et je voulais uniquement qu'on puisse discuter de ça.
Dans quel état étiez-vous lorsque vous étiez chez votre amie?
Je pense que j'ai été assez sidérée, un peu dans le déni au départ, en tout cas dans le déni d'une souffrance, puisque voilà, ce que je disais, c'est que de toute manière, ça faisait pas très longtemps que je le connaissais, donc j'avais avancé sans lui avant, ben j'allais avancer sans lui après, tant pis, c'est comme ça. Mm-hmm. Des déceptions, ça arrive, et puis ce sera pas le dernier, donc tant pis. Voilà,
vous étiez mariée depuis 7 mois.
Non, on n'était pas mariés, on était en couple.
Ah, vous étiez en couple, d'accord. J'avais saisi que vous étiez mariés. Donc, non, vous étiez depuis 7 mois ensemble, d'accord.
Voilà.
D'accord.
Donc, au départ, bien sûr, comme la plupart des femmes, je m'étais résolue à arrêter ma relation avec lui et à avancer sans lui.
Ouais.
Simplement, les jours passant, plus on s'est parlé, plus je pense ma colère est descendue et il m'a rassurée sur ses sentiments. Moi-même, j'avais de forts sentiments pour lui, hein, j'étais très très attachée. Donc on en a parlé, on en a profité pour parler de plein d'autres choses dans notre couple. Et il est vrai que dès le début de notre relation, assez rapidement après le début de notre relation, il est parti en voyage à l'étranger sans moi. Et en fait, c'est dans ces circonstances-là, finalement, qu'il avait rencontré cette jeune femme et qu'il avait eu une aventure avec elle. Elle s'était passée là-bas comme une amourette de vacances, dirais-je. Et lorsqu'il était rentré, il avait continué à entretenir ça sans plus qu'il y ait de contact charnel entre eux. Donc, c'est vrai que je ne suis pas une personne qui refuse que chacun ait son propre espace. On peut être dans des moments de fusion, dans des moments... de séparation, chacun doit être autonome aussi dans ce qu'il fait, dans ce qu'il vit. Il m'est moi-même arrivé au cours des 10 dernières années de partir sans lui de 5 jours à 3 semaines avec des amis. Donc voilà, ça c'est en termes de conception de couple, ça ne me gênait pas qu'il puisse partir sans moi. Sauf qu'on avait eu cette conversation déjà. Je lui avais dit que quand bien même il se passait quoi que ce soit, ce qui n'est pas une autorisation, il devait quand même me protéger. Protéger ma santé, protéger mon cœur. Donc, je ne voulais juste ne jamais le savoir et ne pas avoir à assumer les conséquences d'éventuelles incartades, que ce soit une grossesse ou une maladie.
Ce qui est un bon point de départ, en tout cas, de partir sur un tel postulat lorsqu'on est ensemble, c'est plutôt super parce qu'on sait combien... combien de couples n'arrivent pas à fonctionner comme vous en aviez décidé, et laisser partir l'autre à l'autre bout du monde pendant plusieurs semaines, c'est quelque chose qui est difficile. Bon, tout tient finalement dans une question de confiance. On va marquer une petite pause, si vous le voulez bien, Naya, et on se reparle dans quelques instants.
Très bien.
À tout de suite.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Vous êtes sur Europe 1, vous êtes sur votre libre antenne et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. N'hésitez pas à nous laisser votre message sur le 3921. Florian et Natacha vous rappelleront dans quelques heures ou quelques jours. En tout cas, vous pouvez compter sur leur assiduité. N'hésitez pas. Donc, nous sommes avec Naya qui nous parle de l'histoire de son couple ce soir. Un couple solide, puisque après le pardon, normalement, c'est comme un ciment, le pardon dont on parle ce soir. Naya a su pardonner. Naya a su mener tout cela, je dirais, avec beaucoup de prestance, beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence aussi. Et nous parlons de ce pardon si important, mais si difficile aussi à atteindre. Ben, j'emploie le mot atteindre parce que c'est un peu le Graal de pouvoir arriver à pardonner lorsque on a été blessé, lorsqu'on s'est senti quelque part humilié, comme lorsque voilà, on est trompé quand, comme quand on vit l'infidélité, ça n'est pas, on le sait tous, ça n'est pas quelque chose de facile à vivre. Naya, vous évoquez donc cette philosophie hein, de liberté dans le couple. Alors, liberté d'aller d'aller en vacances ou alors pour des missions peut-être de travail, mais en tout cas de pouvoir se séparer, de laisser aller l'un et l'autre pendant quelques jours, voire quelques semaines. Et donc d'être dans un rapport de confiance. Est-ce qu'il n'a pas été ébranlé, ce rapport de confiance, longtemps ébranlé après cette histoire-là ?
Il l'a été, oui. Il l'a été pendant un temps. Un temps qui aujourd'hui ne me paraît pas si long que ça. Je ne saurais même pas le quantifier. Mais c'est sûr qu'il a été ébranlé. Donc la confiance en lui, en moi aussi, en notre couple également. C'est jamais agréable de savoir qu'il y en a une autre. C'est jamais agréable de lire des mots d'amour qui sont destinés à une autre alors qu'on pense être exclusif. C'est sûr. Mais disons que la clé du pardon, ça a été beaucoup, beaucoup de discussions quand même. Alors, au départ, je voulais savoir. Je voulais avoir les détails, qu'il m'explique comment, qui, dans quelles circonstances... s'il l'aimait réellement ou pas. Mmh. Et puis très rapidement, en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas ce qui allait m'aider, parce que ça allait au contraire graver dans ma mémoire peut-être des images un petit peu trop précises, et j'avoue que je ne les voulais pas. Donc très rapidement, quand il m'a dit qu'il n'y avait plus rien, que, voilà, que c'était une erreur, qu'il demandait pardon, on a dépassé ça pour aborder d'autres questions, en fait, d'autres problèmes qu'il y avait dans notre couple, oui, et qui peut-être finalement avaient poussé à ce qu'à un moment donné, il regarde une autre femme, puisqu'il y avait des tensions entre nous. Oui. On était encore à la découverte avec des parcours de vie très différents, des choses qui me paraissaient très allant de soi, donc des implicites qui n'étaient pas partagés, des manières de communiquer qui n'étaient pas les mêmes. Donc toutes ces choses-là avaient quand même créé des tensions qui peut-être à un moment donné lui ont donné cette envie-là de plus de légèreté avec quelqu'un d'autre. Donc rapidement, en fait, on est parti plutôt aborder ces questions de fond qui pour moi étaient bien plus importantes finalement que cette relation qui m'avait convaincue qu'elle était passagère.
Vous pouvez m'en parler de ces dysfonctionnements qui finalement vous ont mené à ça, ont débouché sur cette infidélité. Qu'est-ce que vous avez abordé ?
Il y avait plusieurs choses. Il y avait déjà le fait que lui avait un point de vue un petit peu macho sur la relation. ou dans le sens où il souhaitait que je puisse rendre compte de ce que je faisais, avec qui j'étais, bien qu'il ne il s'agissait pas de me donner une autorisation ou une interdiction de faire, mais de l'informer sur où j'allais, si je rentrais tard, il fallait lui dire. Or, moi, je n'en avais pas l'habitude, je vivais seule depuis quelques années, et même plus jeune, je n'avais pas cette habitude-là de rendre compte de ce que je faisais, parce qu'on m'a toujours considérée comme suffisamment responsable pour savoir ce que j'avais à faire. Donc, de m'adapter à ça, alors j'ai fini par comprendre que c'était aussi pour me protéger, entre guillemets, ou pour des questions de sécurité, si je vais rentrer tard, au moins de prévenir où j'étais. Donc, jusqu'aujourd'hui, j'ai encore du mal à intégrer cette habitude-là, mais ça faisait partie des choses, des sujets assez récurrents. Il y avait également les questions financières. Nous n'avons pas la même conception par rapport à l'argent. Il y a une grande différence de salaire dans notre couple, qui existait déjà à l'époque et qui n'a fait que s'intensifier avec le temps. Et ça faisait partie des sujets récurrents sur comment on dépense les sous pour un foyer, qui paye le plus, qui paye quoi. Il y avait toutes ces choses-là. Et puis aussi le fait que moi, j'ai une personnalité assez affirmée. Je suis plutôt celle qui impulse les choses. Et donc, il y avait un rapport de force entre lui et moi. Lui qui voulait dominer par un côté un peu macho, d'une manière très traditionnelle, ou très dépassée de voir les choses. Et moi-même, avec ma personnalité un peu bout en train leader, qui voulait aussi, ou peut-être un peu autoritaire, je ne sais pas, qui voulait aussi imposer mes points de vue. Donc tout cela avait créé à plusieurs reprises des tensions, des discussions, et ça avait cristallisé quand même pas mal de difficultés entre nous, bien que les sentiments étaient présents.
Et il a entendu tout ça comme il fallait. Il a convenu lui aussi de son côté que. Qu'il n'avait pas pensé à tout ça et qu'il avait été un peu léger par rapport à tout ça.
Oui, il était en accord avec beaucoup de choses, parce qu'on se les était déjà dites par le passé, mais peut-être pas de la bonne manière, peut-être pas avec le même recul. Et là, la crise qu'on traversait nous imposait finalement de faire preuve d'un petit peu plus d'ouverture d'esprit, de plus de tolérance finalement vis-à-vis de l'autre et de l'écouter, parce qu'il n'était pas question de repartir sur les mêmes bases, c'était pour que ça produise les mêmes résultats. Donc je pense que l'un comme l'autre, inconsciemment, on avait intégré ce fait. Donc il était plus ouvert au dialogue, je l'étais plus aussi pour entendre finalement des reproches qu'il avait à me formuler, parce qu'évidemment je me disais que c'est moi qui suis blessée, donc tous les torts sont de son côté. Mais en réalité, en abordant les questions au-delà de l'infidélité, les torts étaient partagés. Il s'agissait que chacun, finalement, soit en mesure de faire un pas vers l'autre. Et surtout reconnaître qu'il n'y avait pas de rivalité entre nous. C'était vraiment beaucoup ça. Il n'y avait pas de rapport de force entre nous. Et que, finalement, on était complémentaires et chacun contribuait à sa manière à ce que notre couple, finalement, puisse grandir.
D'accord.
Donc, on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup discuté. On y a passé des heures. J'ai l'impression qu'on n'avait jamais autant parlé qu'à ce moment-là. Et au bout de 10 jours, finalement, de séparation, un jour, il m'a posé la question. Il m'a demandé, mais alors, est-ce que tu vas revenir ? Et j'ai fini par lui dire oui, je vais revenir. En lui disant quand même que dans ce cas-là, le sujet, notre sujet premier, qui est celui de l'infidélité, je ne souhaite plus l'aborder. Je lui accorde le bénéfice du doute. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé ou pas, si ce qu'il m'a dit est vrai ou pas, mais ce qui est certain, c'est que je lui accorde le bénéfice du doute, que je lui pardonne. Pour moi, si je lui pardonne, c'est que je lui pardonne sincèrement et que je ne veux plus en reparler et que j'espère pour lui qu'il saura me protéger pour l'avenir et ne plus m'obliger à prendre une décision, parce que lorsqu'on apprend une chose pareille, on est obligé quelque part de prendre une décision. Je ne peux pas être femme à me laisser faire, à me laisser avoir, à me laisser tromper comme ça sans qu'il ne se passe rien, et que symboliquement j'étais obligée de prendre une décision. Alors je ne l'ai pas maintenue, je suis partie, mais c'était plus pour prendre du recul, dirons-nous, mais que je ne voulais pas qu'il me remette dans une telle position à devoir décider la fin de quelque chose alors que j'étais pas prête, que je considérais pas que notre histoire était terminée.
Mmh. Tout ce que vous dites est extrêmement juste. On va marquer une nouvelle pause et je vais vous dire ce que j'en pense un peu plus longuement. Mais on se repart dans quelques instants, si vous le voulez bien, Naya.
Très bien.
À tout de suite.
Olivier Philippe Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Vous êtes toujours sur votre libre antenne et nous sommes ensemble, chers amis, jusqu'à 1h du matin. Nous échangeons avec Naya ce soir qui nous parle de l'histoire de son couple. Une histoire sur laquelle nombreuses et nombreux devraient prendre exemple. Et nous allons l'évoquer maintenant avec Naya parce que je dirais que ce couple a su se remettre en question. C'est exactement ça, Naya, hein, ce que vous avez fait. C'est se poser des questions sur ces dysfonctionnements pour mieux arriver finalement à mieux fonctionner ensemble et être dans une nouvelle réalité, mais une réalité où la vérité était de mise. Et la vérité était là pour être en tout confort l'un avec l'autre. Je disais qu'il fallait s'inspirer de votre histoire parce que bon nombre de couples fonctionnent mal et n'ont même pas, ça n'est même pas une histoire de courage parce que je pense que beaucoup auraient envie de sauver ce couple. Beaucoup ont beaucoup de peine, sont très blessés à l'idée qu'ils vont se séparer parce que dans cette séparation, lorsqu'il y a dysfonctionnement et que comme vous et votre homme, on n'a pas pris le temps de poser les choses comme vous l'avez fait. Parler de ces dysfonctionnements et peut-être, comme vous l'avez fait aussi, aller au-delà de ces dysfonctionnements et se dire, voilà, on peut continuer, mais on va continuer comme ça. On va laisser de côté toutes ces choses, toutes ces erreurs qu'on a pu faire et enfin appliquer ce dont on a envie, c'est-à-dire être ensemble, mais être vraiment ensemble. La vérité, parce que vous l'avez évoqué, vous êtes une femme avec une volonté de vivre un amour et cette histoire d'amour avec, je dirais, quelque chose qu'on trouve souvent chez les femmes, c'est-à-dire ce besoin de vérité. Mais vous avez senti qu'il était au niveau, lui, qu'il était capable de l'appliquer, ça?
Oui, je pense qu'en fait, sa crainte peut-être de nous perdre l'a obligé à un moment donné aussi dire les choses. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette cassure-là aussi, l'absence, le manque, qui a probablement généré aussi de la crainte, je suis pas certaine qu'on en serait arrivé à reconstruire quelque chose. Et je pense que c'est fondamental qu'il y ait même une cassure physique, que voilà, qu'on soit plus dans le même lieu, dans le même espace, parce que je suis certaine qu'on aurait pu aussi se dire des choses peut-être beaucoup plus dures, peut-être beaucoup plus violentes. Avec la colère, on a quand même moins de filtres qui auraient peut-être conduit à ce qu'on ne soit pas en mesure de communiquer réellement et en profondeur.
Et alors, j'ai plusieurs questions à vous poser. Je pense plus à celles et ceux qui nous écoutent, parce que dans votre récit, il y a plusieurs points que j'ai notés plusieurs points qui vont parler à ceux qui nous écoutent, parce qu'ils sont peut-être sûrement passés par là, ou ils ont l'envie de passer par là. Et j'aimerais que vous puissiez me répondre sur quelques points. À commencer par, vous cherchez dans le téléphone le soir où vous avez cette intuition. D'abord, en fait, cette intuition, elle vient comment ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Pourquoi ? Est-ce que vous le trouvez bizarre ? Est-ce que vous avez noté quelque chose qui sonnait faux ? Est-ce que vous avez perçu un mensonge ? Est-ce qu'il y a une anomalie qui fait que, déjà, vous avez cette intuition ? Et ensuite, allez fouiller dans son téléphone. C'est quelque chose de très puissant, ça. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous violez son intimité, vous pénétrez dans quelque chose qui est normalement interdit. Cette intuition, parlez-moi.
Déjà, donc cette intuition, alors peut-être inconsciemment, j'avais perçu de petits changements. C'est possible, mais moi, c'était plus une certitude. C'est-à-dire que, tout simplement, je sortais de la bouche du métro, hein, je me vois encore, je marchais, et puis il y a cette idée fixe, il se passe quelque chose, il te trompe. Voilà, c'était une certitude, une croyance qui s'est ancrée en moi, et il fallait que je puisse la vérifier. parce que toute la soirée, j'étais avec lui, mais je me projetais aussi pour l'après, pour aller vérifier ce qui, pour moi, était la vérité. Ça m'est juste apparu comme ça. Et effectivement, de fouiller dans le téléphone, c'est pas neutre, parce que ça faisait partie des règles qu'on s'était fixées dès le départ. Déjà, ne pas être amis tous les deux sur les réseaux sociaux, parce qu'après, on peut interpréter d'une manière ou d'une autre les publications, les likes de l'un et de l'autre. Donc, on s'était déjà fixé cette règle-là au départ. Et de ne pas fouiller dans le téléphone de l'autre, si bien qu'on le laissait disponible à proximité de l'autre en toute confiance, parce que cette règle-là avait été acceptée par l'un et par l'autre. Donc, c'est vrai que d'un côté, j'ai quand même trahi cette confiance qu'il avait en moi. Mais voilà, pour moi, la fin justifiait le moyen.
D'accord. Et... Lorsque vous avez évoqué que vous vous refusiez dans les premiers jours à parler avec lui parce que le sujet de la conversation allait être justement par lui, hein, par son biais, de parler de ça et finalement de déplacer hein, le sujet, c'est drôle que vous ayez pensé à ça. Pourquoi vous avez pensé à ça Parce que ça s'était déjà produit, ça ou
Non, pas du tout. Ça ne m'était jamais arrivé. Je n'ai pas souvenir non plus que ce soit arrivé à quelqu'un d'autre autour de moi. Mais je ne sais pas. J'étais convaincue. Alors, je ne sais pas. Hein, je vais avoir des convictions vraiment très fortes ou une intelligence émotionnelle et relationnelle très forte. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Je me suis dit que dans la logique des choses, il allait très probablement faire ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Et puis aussi, de ne pas lui parler pendant quelques jours, moi, ça m'évitait d'aller trop loin dans les mots, de mal lui parler ou de lui manquer de respect. C'était aussi ça, parce que je sais que quand on est en colère, forcément, on contrôle moins ses propos. Et je ne voulais pas lui donner, en fait, cette image-là de moi, quelque part. Je voulais rester digne, finalement. Je pense qu'au fond, ce qui s'est passé, c'est que je souhaitais rester digne et paraître... comme une femme forte et mature qui gère ces situations-là aussi. Et prendre quelques jours de recul, ben, ça me permettait de rassembler mes idées aussi et puis peut-être aussi d'instaurer un rapport de force qui m'était favorable. Mmh. Là, j'y pense tout en vous le disant, mais c'est vrai que je le disais qu'un des sujets récurrents qui était facteur de tension, c'était ça. C'était une sorte de rapport de force, une rivalité qu'il y avait entre lui et moi, du fait de nos caractères, lui dominant et moi également. Donc je pense que quelque part, il devait y avoir quelque chose de cet ordre-là, où je voulais être en position de force pour aussi dire ce que je pensais et peut-être quelque part aussi l'amener à aller dans le sens que je voulais. Je ne sais pas, hein, c'est avec 10 ans de recul que je vous dis ça, mais c'est possible.
D'accord. Et est-ce que lorsque vous disparaissez comme ça, vous m'avez dit que vous étiez sidéré, que vous demandez aux membres de votre famille de ne pas répondre parce que vous savez, vous le connaissez, hein, votre conjoint. Mmh. Vous savez qu'il va appeler, qu'il va s'inquiéter. Peut-être que cette femme va le mettre au courant en plus, donc il va vite savoir de quoi seront faits les jours qui arrivent. Qu'est-ce que vous allez chercher là-dedans? Est-ce que vous décidez de rentrer en silence comme ça, de vous mettre en off et de ne plus lui parler pour créer le manque, pour lui faire peur ou pour qu'il réfléchisse ou tout ça à la fois?
Au départ, la première chose, c'était d'abord, je ne veux plus le voir, il m'a trahi, je ne veux plus entendre parler de lui. Ça, c'était la première intention. Ensuite, ça a un peu progressé au fil des heures, au fil des jours. Je me suis dit, non, mais il connaît mon histoire. Il sait que je n'ai pas forcément eu une histoire avec un grand H facile, du point de vue des relations avec les hommes, du point de vue de mon parcours en tant que femme. Et il ose quand même me faire ça, malgré tout ce qu'il sait de moi. Je lui ai fait confiance, je lui ai déposé toutes mes faiblesses et finalement, il les utilise pour les retourner contre moi. Donc, j'avais aussi cette colère contre lui. J'avais la déception aussi, tout simplement, hein, qu'il soit allé voir une autre femme. Ça a piqué mon égo de femme aussi. Et au départ, me mettre à distance, c'était surtout le mettre lui à distance. Oui. Je ne voulais plus le voir, je ne voulais plus l'entendre. C'est bon, en fait, je ne voulais pas d'explication. Et je ne voulais pas lui donner le luxe, finalement, qu'il me voie souffrir à cause de lui.
D'accord, d'accord. Et en fait, le fait qu'il revienne, qu'il insiste, est-ce que c'est quelque chose qui vous a conforté dans le fait qu'il était prêt à se battre pour vous? Parce que c'est une notion importante aussi oui. pour les femmes. C'est de voir qu'un homme est dans la faute, mais que voilà, qu'il se débat, qu'il se bat à fond, et que coûte que coûte, il veut vous récupérer. C'est, parlez-moi de ce sentiment-là, parce que je sais qu'il est très important chez les femmes. Excusez-moi, je vois qu'on a un peu dépassé. On va marquer une courte pause et puis on se retrouve tout de suite. Mais gardez bien ma question en tête. Oui. Merci, à tout de suite.
Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Nous sommes ce soir avec Naya. Nous parlons d'infidélité. Nous évoquons aussi une certaine vigilance bien féminine, une certaine vigilance par rapport au fait de ne pas se laisser glisser dans divers dysfonctionnements qui font qu'à un moment, on peut être amené, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, à éprouver le besoin d'aller voir ailleurs ce qui s'est passé pour le compagnon de Naya, celui qui partage sa vie depuis 10 ans maintenant. C'était il y a longtemps. Naya nous parle ce soir du pardon qu'elle a accordé à ce compagnon et comment elle a su construire ce pardon et comment tous les deux ensuite ont su mener cette barque du mieux possible, puisque aujourd'hui ils sont ensemble et qu'ils s'aiment. Je vous avais posé une question, Naya, juste avant que nous marquions une pause. Répondez-moi, allez-y.
Alors, sur ce que m'a évoqué le fait qu'ils se battent pour moi et pour nous. Donc évidemment, ça a joué parce que je l'ai senti très, très affecté. Il m'a beaucoup écrit à cette période-là des longs, longs, longs messages où il exprimait ses sentiments et ses regrets. Et c'était des choses qu'il n'avait pas exprimées jusqu'alors. Et effectivement, je l'ai vraiment senti ébranlé. Je l'ai senti souffrir et quelque part, je pense que ça a rééquilibré aussi les choses. Finalement, on se parlait d'une souffrance à une autre. Peu importe qui finalement l'avait généré. Lui, certes, il avait généré ma souffrance, mais moi aussi, j'avais généré la sienne en partant, en le fuyant et en me fermant à toute possibilité de dialogue avec moi au départ, en tout cas. Donc, je pense que, effectivement, de sentir qu'on est important pour quelqu'un, de sentir que l'autre a peur de nous perdre, c'est aussi un gage d'espoir dans le fait qu'ils ne reproduisent pas la même chose. Je pense que c'est aussi ça qui nous a permis de retourner l'un vers l'autre.
Alors, qu'en a dit votre entourage, en fait? Parce que je suppose qu'à un moment, l'ami chez qui vous avez élu domicile pendant quelques jours, vous avez parlé de votre frère, de votre sœur. Comment ça a été perçu autour de vous? Parce que généralement, ce type de choses qui arrivent dans un couple et surtout lorsqu'un couple se sort de l'ornière à ce niveau-là. J'ai l'impression que ça fait du bien à l'entourage, quelque part. En tout cas, l'entourage, souvent, se réjouit de voir qu'on a franchi un cap, qu'on s'est élevé, quelque part. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, mais c'est ce que j'ai, moi, constaté lorsque des couples qui font partie de mon entourage ont traversé ce genre de tempête et finalement ont montré un peu la voie aux autres.
La chance que j'ai, c'est d'avoir des amis qui ne m'assènent pas des phrases toutes faites comme « à ta place, j'aurais fait ceci » ou « à ta place, j'aurais fait cela ». En fait, on m'a laissé la place de traverser toutes les émotions que je traversais. Mon amie chez laquelle j'ai résidé, elle ne m'a pas posé de questions à ce propos-là. D'ailleurs, je ne voulais pas vraiment rentrer dans le détail à ce moment-là. Je vivais mes émotions et c'était vraiment ça qui était le plus important. Elle m'a juste laissée. Elle m'a laissé de la place, elle m'a fait de la place chez elle et elle a laissé le silence s'installer aussi entre nous. Et puis lorsque je voulais en parler, on en parlait, on en a beaucoup parlé. Elle m'a écoutée, bien sûr de temps en temps elle a exprimé sa désapprobation par rapport à son comportement évidemment, mais sans jamais me dire quoi faire. Et c'était quand même ça le plus important. Ma famille, j'en ai parlé après que la crise soit passée, après qu'on se soit remis ensemble, lorsqu'ils m'ont demandé mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai fini par dire un certain nombre de choses, mais pas tous les détails, parce que cette partie de l'histoire, en fait, elle n'appartient qu'à nous. Et c'est vrai que le risque parfois, lorsqu'on parle d'infidélité, c'est que les gens pensent infidélité égale rupture. Tu peux pas rester avec quelqu'un qui t'a trompé. Non,
ouais, ouais, ouais.
Il a été intime avec quelqu'un d'autre, il t'a sali, il va te salir, etc. Donc je voulais aussi éviter de l'exposer lui à toute forme de jugement et d'exposer notre couple aussi. Donc finalement, j'en ai parlé à très peu de personnes, à deux ou trois amis vraiment en qui j'ai vraiment, vraiment confiance. Et c'est vrai que ce sont des sujets qu'on n'a pas réabordés après en réalité. C'était au moment où c'est survenu. Et puis ensuite, ils nous ont vu effectivement continuer à grandir ensemble, continuer à avancer tous les deux. Et puis ça ne s'est pas reproduit. Donc finalement, je pense qu'on a eu raison de prendre ce chemin-là.
Mais vous avez vu comme souvent, en fait, les gens sont remplis de certitude comme ça, et vous assènent des paroles qui n'ont aucun rapport avec la dimension de ce que vous avez vécu. Parce que c'est j'insiste encore sur ce point, c'est très important de bien réaliser ce que vous avez vécu, en tout cas que ceux qui nous écoutent réalisent bien ce que vous avez vécu. Vous avez, à l'âge de 25 ans, su mettre le doigt sur des dysfonctionnements, vous comme lui, c'est-à-dire lui a été aussi capable d'entendre vos souhaits, ce qui dénote aussi d'une maturité chez lui et d'une intelligence. Il aurait pu, s'il avait continué à fonctionner comme un enfant, hein. Souvent les hommes sont d'éternels adolescents, vous savez, et donc les propositions que les femmes peuvent faire afin qu'on s'élève un peu, que la vérité soit là au cœur du couple, eh bien, ça peut être interprété souvent comme une volonté par les hommes, hein, une volonté de mieux nous posséder, savoir tout ce qu'on fait. Vous voyez, vécu comme une intrusion dans nos vies. Et en fait, parce qu'on veut entendre ça, parce que beaucoup d'hommes veulent entendre ça. Or, souvent, en fait, alors ça n'est pas pour toutes les femmes, hein, je le précise bien, mais quand même, la grande majorité des femmes développent une parce que c'est lié à la sensibilité des femmes, tout simplement. Et moi, je ramène cela, vous savez, au fait que vous donnez la vie. Cette responsabilité-là, le fait de porter des enfants. Même si on n'a pas encore porté d'enfants. Hein, mais il y a cette chose-là, chez les femmes et chez les jeunes filles, cette responsabilité-là, ce sens-là, qui fait que souvent, on le remarque, hein, les filles sont beaucoup plus mûres que les garçons, vous savez, à 14 ans, 15 ans. Et que tout ça continue, même si ça s'atténue un peu et que voilà, on se rapproche les uns des autres après. Mais d'une manière générale, je trouve que voilà, les hommes sont souvent d'éternels adolescents. Et je vous rassure, hein, je me mets dans cela, hein, pour que tous les hommes qui nous écoutent ce soir ne pensent pas que je suis en train de prôner pour la chapelle des femmes. Je fais partie aussi de ces hommes qui ont eu du mal à prendre leur place en tant que père, parce que tout ça est difficile. Tout ça est difficile et que, encore une fois, je le rappelle, les femmes, en tout cas, c'est ma perception des choses, hein, qui est aussi partagée par beaucoup d'écrivains hommes, de philosophes hommes qui ont perçu ces choses-là chez les femmes. Voilà, ce sens des responsabilités, en fait, et en tout cas, la volonté de vouloir amener de la vérité, en fait. Comment ça va aujourd'hui, alors ? Parlez-moi de vous deux, un peu.
Aujourd'hui, ça va très bien. Nous sommes heureux parents de deux enfants que nous avons eus ensemble.
D'accord.
Et aussi avec sa fille qu'il a eue à un plus jeune âge. Donc, nous sommes une famille recomposée avec trois enfants et tout se passe très bien.
D'accord. Vous faites quoi dans la vie, tous les deux ?
Moi, je suis cadre et lui, il est employé de commerce.
Très bien. Bon, et autour de vous, alors ? Parlez-moi de la vision que vous avez de certains couples autour de vous, parce que ça m'intéresse de savoir, maintenant que vous avez derrière vous une dizaine d'années comme ça de fonctionnement, parlez-moi de votre perception en général de certains couples qui vous ont marqué, si bien évidemment certains vous ont marqué.
Oui. Une des choses qui, de mon point de vue, peut manquer parfois, c'est justement la communication, mais pas la communication juste donner des informations, la communication que je dirais réelle, un espace dans lequel l'homme peut aussi laisser éclater sa sensibilité. En tout cas, pour ce qui nous concerne, mon homme, par exemple, va plus pleurer que moi, non pas parce que je suis pas sensible, hein, mais c'est qu'on l'exprime différemment. et il se sent suffisamment libre pour pouvoir exprimer ça. Et à la fois, j'arrive à me reposer sur lui parce qu'on est une équipe et qu'on avance tous les deux. Et je trouve qu'il y a quand même cette espèce d'injonction à tenir certains rôles qui, je trouve, ne servent pas forcément les couples. C'est principalement ça quand même qui me marque. Tu devrais, un homme ça fait ci, une femme ça fait ci, un homme ça se comporte comme ça, une femme ça se comporte pas comme ça. Je trouve qu'il y a des rôles un peu assignés, ou en tout cas qu'on a intériorisés, et qui ne nous font pas forcément du bien.
Oui, vous avez raison. Et je trouve que, alors aujourd'hui vous avez 35 ans, mais je trouve que pas mal de jeunes, il y a un retour à quelque chose d'un peu rigide chez pas mal de jeunes. J'entends ici et là, voilà ce que vous venez de dire. Une femme, ça fait ci, ça fait pas ça, et puis elle doit pas faire ci, elle doit pas faire ça. Vous savez, un retour un peu à des notions un peu curieuses, en tout cas pour moi, un peu rigoristes, vous voyez. Un retour un peu à des principes un peu durs, voilà, en mettant l'homme souvent au cœur de... comme l'installant à nouveau dans la position de celui qui décide, celui qui est intouchable. Voilà, ce type de position étant véhiculé dans tous les milieux et dans toutes les religions, parce que je tiens à préciser aussi que toute religion confondue, je trouve que on n'avance pas beaucoup en fait de ce côté-là, et que en même temps on revient à des traditions. Le poids des traditions est à nouveau lourd. Étonnamment, parce qu'on vit une époque moderne, mais en même temps, voilà, on revient à des choses un peu plus dures. Et je trouve que vous êtes vraiment, vraiment un exemple à suivre. Donc, pour ça, merci beaucoup, Naya.
Merci à vous de m'avoir donné la parole.
Je vous en prie.
Que cette histoire, que ce témoignage servira. Et que, voilà, 10 ans plus tard, c'est un sujet qu'on n'aborde plus, on n'en a pas reparlé, parce que j'estime que dès lors qu'on accorde son pardon, ce n'est pas pour garder un peu cette erreur-là comme une arme qu'on ressort à toute occasion. Donc c'est un sujet dont on n'a pas reparlé. Il nous est arrivé de traverser d'autres difficultés, mais qui n'étaient sans lien du tout avec ce qui s'était passé précédemment. Et puis on continue à grandir, à avancer, j'espère pour encore quelques décennies.
Et puis c'est vrai qu'à deux, on avance toujours beaucoup mieux que lorsqu'on a ce socle-là qui est solide. C'est vraiment quelque chose qui nous rend fort, et comme si on était protégé par cette bulle que représente la famille, que représente l'amour de l'autre. Le fait que l'autre veille sur vous ainsi que vous veillez sur l'autre et sur les enfants. Et c'est vrai que les enfants, dans tout ça, quand en fait il y a un couple comme vous qui s'entend bien, en tout cas qui grandit ensemble et qui a pris conscience aussi, comme vous venez de le dire, que ça n'est pas toujours facile aussi, parce que la vie, ça n'est pas que le couple, que l'amour, mais il est certain qu'on se sent plus armé lorsqu'on est comme ça. Merci beaucoup, Naya, pour ce joli témoignage, ce joli partage. Et puis... embrassez vos enfants, et puis bon vent à vous deux. Ok.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Bonne continuation.
Au revoir.